Bonsoir. Et c'est vrai, je suis bien en compagnie du poète Fred Griot pour un entretien qui se déroule à la maison de poésie de Normandie, encore appelée La Factory, ce qui nous permet de faire un clin d'œil à Andy Warhol. Les mots d'azur, c'est parti. Fred Griot, bonsoir et merci de m'accorder cet entretien. Et pour commencer, je ne peux m'empêcher de faire remarquer combien le patronyme Griot vous va bien, puisqu'un griot est ce conteur africain qui transmet oralement l'histoire et la littérature de sa région, de son pays ou de sa culture. Mais il est un peu plus que cela, et il a une importance réelle dans les sociétés africaines, comparable à l'importance des druides celtiques ou des bardes. Est-ce que ce nom Griot est un pseudonyme ou bien c'est le nom que votre père vous a transmis?
Bonjour, c'est le nom que mes ancêtres terriens m'ont transmis dans l'Isère, mais j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que ça voulait dire en latin grius, gai chantant, et que ça vient de l'Ain, de l'Isère. Moi ça me convient. Et l'analogie avec les griots africains, évidemment, me convient aussi, mais c'est un beau hasard.
Pour vous présenter, Fred Griot, je dirais que vous êtes né à Lyon en 1970, que vous êtes désormais parisien, que vous écrivez prose et poésie, que vous avez une bonne quinzaine de livres édités, que vous créez des spectacles poétiques, que vous avez enregistré 3 disques, que vous donnez nombre de lectures et concerts, qu'on a pu vous voir aux 6 coins de l'Hexagone, mais aussi à l'étranger, en Europe et en Amérique, que vous avez participé aux aventures de Publi.net et au site Remu.net pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, je recommande ces éditions et ce site à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas. Vous avez été chargé de cours intitulés Écriture et édition numérique, en université pour les Master 2, à la Sorbonne et à l'Université de Poitiers, ainsi que de nombreux autres ateliers dits d'écriture et mise en voix. Et quand vous n'écrivez pas, il est dit que vous devenez grimpeur et concepteur d'activités en hauteur, en dirigeant un réseau de professionnels et que vous intervenez dans le cadre d'événements, chantiers ou spectacles sur façade, dans le cadre du réseau Cap-Aventure. Et nous y reviendrons tout à l'heure. Fred Griot, j'ai lu quelque part que vous aviez un temps considéré le langage, la langue, comme une pâte, comme une terre organique à travailler. Mais que votre attention plus récente se porte sur la simplicité, afin d'offrir quelque chose d'abordable pour tous et toutes. Alors j'aimerais bien que vous nous parliez de ces deux périodes, de ces deux mouvements. Est-ce que vous pouvez développer, nous expliquer ce que vous entendez par là?
Enfin, ces deux périodes, c'est une continuité, hein. La langue comme pâte, la pâte langue, c'est pas de moi, c'est du poète Christophe Tarkos. Mais oui, c'est quelque chose de très ancré, c'est une terre. Moi, j'ai des racines terriennes en particulier, enfin, entre autres plutôt. C'est une matière, ça se malaxe, c'est très physique d'écrire, hein. Quand vous écrivez quelque chose qui touche un peu les choses, vous êtes crevé après, quoi. Il y a une vraie fatigue physique, comme si vous aviez marché des heures. C'est pas du pur esprit, ça n'existe pas, ça. Donc il y a ça et la pâte langue, oui, je l'ai beaucoup malaxée, ce que j'ai appelé la manducation de langue aussi, la mâcher, la mastiquer, la travailler, de décaler la syntaxe, tout ça. Le premier mouvement, ça a d'abord été un mouvement très très jeune, probablement de colère, qui m'a amené à prendre la parole. Après, il y a eu ce mouvement plus tard d'exploration, de pâte langue, justement. Et puis au fur et à mesure des années, oui, l'écriture simple. Alors la simplicité, c'est une grande question, mais elle se fait plus qu'elle s'affirme, j'allais dire. Mais c'est ce que j'appelle, moi, la parole claire, autant que faire se peut, c'est-à-dire une langue qui soit claire. Mais ce que j'appelle la parole claire, c'est une langue qui soit libre, évidemment, qui soit lisible, qui soit partageable.
Parole claire comme la ligne claire en dessin ou en BD?
Oui, on peut penser à ça. Et puis Hugo Pratt, moi, m'a touché depuis gamin. En fait, l'histoire de la parole claire, on la trouve dans plein d'endroits. J'ai trouvé après. Je ne savais pas que ça existait, mais on le trouve chez les Dogons, par exemple. Les initiés parlent d'une parole claire. On le trouve chez les concours de poètes qu'il y avait en Arabie avant la venue même du prophète. Celui qui gagnait le concours de poésie de tous les bédouins du coin, et c'était, on appelait ça la parole claire, on adoptait sa façon de parler, quoi. Là, le sens est un peu différent. J'ai beaucoup sacrifié à l'exploratoire, mais sacrifié dans le bon sens du terme, hein, donner de soi, quoi. Toujours la même histoire, on travaille le langage parce qu'il nous travaille. Et là, oui, je voulais aller vers quelque chose de plus entendable, peut-être travailler plus avec du commun. Mais le commun, c'est très beau parce que c'est ce qui nous fait communauté. C'est des choses que vous allez pouvoir trouver pour ceux qui ont lu ou entendu, par exemple, Antoine Maz, par exemple, ou Carver, Sandrars, tout ça. Tout ça, pour moi, c'est ce que j'appelle de la parole claire. Pessoa, même souvent, Bukowski, par certains côtés. Moi, dans le pur exploratoire. Et c'est aussi ça qui m'a amené à la musique.
Diriez-vous que le corps du poète participe de la sonorité du poème? Ou pour le dire autrement, y a-t-il une proximité de votre travail poétique avec les univers de performeurs tels que Bernard Heidsieck, Julien Blaine, Serge P. ou Jean-Pierre Bobillot, pour ne citer que ceux déjà passés à la postérité ou quasiment?
Pour ceux que vous citez, déjà, le terme de performance me convient. Parce qu'on l'utilise partout, hein, perf, performance, mais bon. Moi, je me sens pas être un athlète. Je fais pas de l'athlétisme, mais après, performance, c'est une culture de la scène très particulière, de l'exposition. Simplement faire une lecture appliquée, pour moi, c'est pas une performance. Il y a pas de mot. On dit lecture, mais moi, par exemple, je dis par cœur. Donc, c'est quoi? C'est une dicture. Puis il y a de la musique. Alors, c'est une lecture consciente. Il y a pas de mot. C'est symptomatique d'ailleurs. Pour moi, c'est passionnant comme question, mais c'est pas une question. On est incarné, on n'écrit pas avec je ne sais quoi. C'est pas un feu follet qui écrit, on écrit avec soi. Et j'ai pour habitude de dire qu'on n'écrit jamais sans musique. C'est la musique qu'on écrit, c'est du son, c'est de la sonorité. Ça, c'est du physique. Quand je dis qu'on est fichu comme une brute après avoir bien écrit, qu'on est crevé, c'est que c'est physique. Et puis on peut pas écrire en dehors. On parle toujours du rythme en poésie, mais on peut pas écrire en dehors des rythmes naturels, ce que j'appelle les rythmes de soufflation, de locomotion et de circulation, le rythme du cœur, le rythme de la marche, le rythme de la respiration. On peut pas faire autrement, c'est avec de ça qu'on écrit, de fait. C'est de la viande aussi, c'est de la carne, c'est de la... On l'a pas entre les mains comme ça directement. Moi, j'avais fait un texte ou une perf, si on veut, qui s'appelait « Mange ta langue, mange ta langue, mange ta langue !» Voilà.
Pour revenir sur le mot performance, je pense que c'est tiré tout droit de l'anglais. Parce oui. Que to perform, c'est faire tout simplement quelque chose. Voilà.
Puisqu'on parle de langue, quand on se présente, on va dire quoi? Poète performeur? Non, en France, je dis poète interprète. Mm-hmm. Voilà, parce que performeur, ça fait appel à autre chose, je pense, en France. Mm-hmm. Ouais.
Il n'y a pas forcément de dispositif. Pour que les auditeurs aient tout de suite votre travail dans l'oreille, voici un extrait de Book Zero, paru en 2011 aux éditions du Dernier Télégramme, un texte intitulé « Mes petits moyens ». Et il y a une histoire autour de ce texte, donc vous allez nous la raconter, Fred Griot.
Alors il faudrait le voir, ce texte, c'est pas très radiophonique, mais disons que les lettrages sont justifiés droite-gauche, donc prennent l'ensemble de la ligne et sont grossis de plus en plus avec une typo assez grasse qu'on appelle du baos. Donc déjà, c'est une partition si les mots sont de plus en plus gros. Ensuite, c'est un clin d'œil pour le coup à Tarkos, encore une fois, cette période-là. Et je l'ai créé la première fois avec Denis Charolle, le batteur, et Fred Gastard, le saxophoniste, qu'on connaît parce que on les entend, c'est eux qu'on entend avec Brigitte Fontaine, Higelin, Thieffen, et puis tous les jazzeux surtout aussi, d'abord, Loïc Lantoine, tout ça. Et ils ont fait une valse là-dessus, voilà, il faudrait imaginer ça.
Alors on vous écoute.
Avec mes petits moyens, avec mes petits moyens, tout petit moyen, ma petite langue dans son petit trou de langue, ce petit trou niché au creux de ma langue, ce petit trou de rien du tout, ce petit trou de rien, un petit trou noir, brillant, silence et vain, ma petite langue confrontée à ce trou, au centre d'elle effondrée. Papos. Peut-être papos de faire ailleurs de ce petit trou de langue avec mes petits moyens, mes tout petits moyens. Ne pas s'en séparer, ne pas pouvoir agir ailleurs. Aucun mot de confiance, mot de rien. Malheureux, de rien du tout. Inusité, inutilisable, boiteux, branlant, contestable, douteux, cruellement faillible, vacillant. J'ai de tout petits moyens. J'ai un tout petit problème de moyens. Un sacré problème de produits de base, de matières premières. Un problème de mots, de matière, de pâte à mots. Avec cette toute petite langue qui file au flot vacillante, flirte avec le bord du trou. Le petit trou de rien du tout. J'ai un problème de trou. Ce doit être ça. Un vaste problème de trou. Un très vaste problème de trou avec cette langue. Peut-être faudrait-il commencer par s'étrouer. J'ai des trous. Je me fais des voix. J'ai la mémoire du trou. J'ai la parole trouée. C'est un gruyère. Un vrai bon gros gruyère. C'est un gruyère. J'ai la parole trouée. J'ai la mémoire du trou, je me fais des voix.
Bravo et merci. Vous venez d'entendre mon invité Fred Griot lire un extrait de son livre intitulé Book Zero, paru aux éditions Le Dernier Télégramme en 2011. Alors merci beaucoup pour cette lecture qui donne aux auditeurs l'occasion de découvrir l'un des aspects de votre travail. Est-ce que lorsqu'on a reconnu son manque de moyens, ce que nombre d'auteurs font quand parfois ils déclarent essayer de dire l'indicible avec un outil commun, avec une matière commune qui est la langue, est-ce qu'une fois reconnu ce manque de moyens donc, on a déjà fait un progrès et l'on en devient plus efficace, plus percutant ?
Ouais, c'est une vaste question, ou une bonne question, enfin une question juste. Nietzsche disait un oui, un non, une grande ligne droite. J'ai l'impression quand on écrit, par exemple, l'adolescence ou le coup d'une émotion, par exemple d'un sentiment amoureux qui est arrivé, je pense à peu près à tout le monde d'écrire à ce moment-là, c'est une écriture, c'est pas qu'on réfléchit pas, mais les non-pensées, on la lâche. Et puis ensuite, après, on travaille souvent. Il y a d'autres périodes où on travaille le nom de Nietzsche. On travaille, on bidouille, on essaye, on refuse, on accepte, on a des mouvements d'admiration, de répulsion, etc. Et dans ce moment-là, entre autres, j'ai l'impression qu'on a, beaucoup de gens le disent, des a priori de résultats. C'est-à-dire que je prends la plume, ça doit être du Pessoa, du Céline ou du Proust, point, sinon ça vaut pas le coup, quoi. C'est l'enfer. Et puis il y a un moment justement où je pense qu'on reconnaît qu'on n'a que les moyens que nous avons et que là on abandonne. Et c'était Sylvain Cassap, un clarinettiste, qui disait ça, se construire sur l'abandon. Et là on abandonne ces choses-là. On abandonne peut-être l'objectif juste pour faire. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup en atelier, mais juste faire, quoi. On lâche et après, comme tous l'ont dit, que ce soit Hugo, Picasso, tout ça, on fait un poème. Pourri, un deuxième poème, bof. Troisième poème, ah. Quatrième, bof. Cinquième, ah, là, il y a un truc. Là, ça touche un truc. Là, c'est long. Là, il y a un endroit là où il se passe quelque chose. Un endroit de vibration, un endroit qui va être partageable avec les autres. Qui a une qualité de sensation très particulière. Et puis le sixième poème, ben, il est un peu pourri. Et puis voilà. Voilà.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on dit que le poète travaille la langue, mais il est lui aussi traversé et travaillé par cette même langue. Et pour cela, il lui a fallu beaucoup écouter. Comment voyez-vous le rapport entre voix et parole, entre langue et parole, entre voix et langue? Et puisque voix, on l'a vu, bon, le rapport au corps, pas seulement du poète, pas le corps du poète seulement, mais le rapport au grand corps du monde.
Il y a plein de choses là-dedans, mais à un moment, j'ai beaucoup écrit dans des langues avec des syntaxes inventées, on va dire, entre voix et parole, ou entre parole et langage, que la parole était antérieure, antécédente au langage, que le langage, après, il avait été articulé. Aujourd'hui, j'y vois peut-être moins de différence. D'ailleurs, indifféremment, je vais parler d'écriture ou de parole, ou voilà, en fait, le langage, c'est simple, il peut avoir que deux formes. C'est écrit ou oral. C'est silencieux ou sonore. Il n'y a pas de choix qu'on fasse de la typo, d'écriture manuscrite, de la perf, d'enregistrement, voilà. Mais pour moi, la parole désigne pas forcément le sonore. C'est quand on écrit, c'est une parole qui est là. C'est une voix qui parle. On reconnaît les voix de quelqu'un. Ça, c'était la première partie de la question, mais il y avait un autre plan qui était, il va falloir que vous me le rappeliez, Béatrice.
Le grand corps du monde.
Le grand corps du monde et l'écoute. Il y a eu des périodes comme ça où, comme si je leur donnais des titres, un peu. Enfin, pas des titres, je ne sais pas, des descriptions de périodes. On a tous des grandes périodes dans une vie, je pense, il me semble. Il y a des grandes périodes naturelles partout. Et au début, je disais que j'écrivais comme on marche ou comme on danse. Et là, il y avait cette chose incarnée, ancrée, ces grands rythmes naturels qui sont dans le langage. Après, j'ai dit que j'écrivais pour écouter. Il faut écouter pour écrire, mais écrire me permettait d'écouter, c'est-à-dire d'avoir une attention particulière au grand corps du monde. Et de sentir, il y a des moments, je pense que tous on le sent, qui est un peu attentif à ce qu'il sent, ressent qu'il y a des moments où on est connecté à tout ça. Enfin, on l'est physiquement tout le temps, mais qu'on le ressente parfois. Et qu'on se sente dans ce grand tout, là. Et pleinement, c'est en général des moments de sérénité, c'est tout sauf anxieux, quoi. La poésie, la scansion, l'adresse, tout ça, c'est pour connecter, c'est pour faire circuler, c'est le boulot de chaman, ça n'a pas changé, quoi. Anxieux, quoi. La poésie, la scansion, l'adresse, tout ça, c'est pour connecter, c'est pour faire circuler, c'est le boulot de chaman, ça n'a pas changé, quoi.
Quand on aborde la question de la diction poétique, vous dites ceci, et je vous cite, dire un texte n'est pas une histoire de cervelle. Parole sur scène, deux points, piston d'air, et non pas joli ton d'une lecture toute intentionnée, bien dite sans doute, rien de pire que de chercher à bien dire un texte, à lui procurer sens en y mettant un ton. Il y a plutôt à donner énergie, cette énergie qui fut là lorsque les mots sont montés, lorsqu'ils ont poussé à la page, cette énergie qui est là dans le corps de l'écrivain, cette énergie d'expulsion, de débordement qui est là, surgit dans le corps de respiration de l'écrivain. Moi, quand je dis ça, c'est comme un rapport au débordement. Ce rapport au débordement, il existe, à mon sens, dans l'écriture elle-même. Est-ce qu'à un moment donné, la langue qu'utilise le poète ne devient pas celle qui utilise le poète? Est-ce que ce n'est pas là la seule condition pour que la parole dite comme écrite soit vivante, c'est-à-dire passer par un corps incarné et même gesticuler un petit peu au sens que donne Franck Lepage dans ses conférences gesticulées? Et je ne sais pas si je dois préciser ce que sont les conférences gesticulées, mais ce sont des interventions qui s'appuient sur le vécu. Ce qui s'appuie sur le vécu est appelé savoir chaud et il intègre du théorique, de l'analyse, et ça, c'est ce qui est considéré comme le savoir froid, ceci dans un but de quasi-éducation populaire.
C'est quelqu'un qui vient de l'éducation populaire. Moi, ce que je vois de lui, enfin, ce que je connais de lui et que je décrirais, c'est en fait, il utilise le corpus verbal qu'on entend tous, les mots, et puis vachement les mots corporate, capitalisme, tout ça, qui sont véhiculés dans ces milieux-là, et puis il le reconstruit à sa sauce, quoi. Et du coup, ça fait apparaître la valeur réelle des mots, quoi, s'ils sont vides de sens. Si on les utilise, il n'y a pas de mots de vide de sens, sans doute. Tout ce qu'on dit nous dit. Ça montre et ça démontre la façon dont parfois on peut utiliser les mots vidés, leur charge émotionnelle, leur charge de sens, quoi.
Oui, je crois que il déconstruit, si on utilise un grand mot comme ça, il déconstruit la langue de bois, en quelque sorte.
Ouais, c'est ça. Ouais. Par rapport à l'extrait que vous avez lu, je ne sais pas si je saurais mieux le dire comme ça à l'oral, mais il y a deux aspects dans l'extrait. C'est un petit livre qui s'appelle Plateau, notes pour la bouche sur scène. Et en fait, c'était mes premières découvertes Enfin, c'est aussi dans mon journal, mais c'est mes premières découvertes quand j'ai commencé à prendre vraiment le plateau de façon vocale et scénique. Et c'est aussi écrit avec une langue qui a sa spécificité, quoi. Qui est elle-même une patte, pour le coup. C'est pas encore la parole claire. Ça dit surtout le débordement, oui, bien sûr. Quand on écrit, c'est que ça déborde. Hein. Quand on peint, c'est que ça déborde. Quand on pleure, chiale. C'est... Mais pour moi, c'est surtout une circulation. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'histoire de Monsieur le Poète ou de Frédouille qui écrit. C'est qu'au-delà de ça, c'est essayer de dire qu'est-ce qui se passe dans le corps et le cœur d'un homme quand quelque chose se produit, qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, je l'ai expérimenté. C'est l'entreprise de Montaigne, dont on parlera peut-être plus tout à l'heure. Mais pour moi, c'est une circulation. On n'est qu'un média d'une circulation, et le média, si possible, le plus court et le plus fluide possible entre ce qui est ressenti et ce qu'on est capable d'en dire. Et donc, par le langage, de le partager avec l'autre, parce que le langage, c'est ça. C'est, je ne sais pas s'il sert à autre chose que de partager. C'est une bonne... Il faudrait se poser la question un peu plus.
Ben, disons que éthiquement parlant, c'est juste, mais on sait bien que c'est utilisé pour la manipulation aussi. J'aimerais maintenant partager avec nos auditeurs un court extrait d'un enregistrement fait pour Radio France et sa série des ateliers de création radiophonique. Il s'agit de refonder un journal du temps de 1990 à 2014.
Refonder un journal du temps. C'est ici juste la voix dedans d'un homme que l'on entend. Un homme parmi d'autres, non pas un homme particulier. Le petit récit ici mené n'est que le récit de notre passage. Pas inutile alors de rappeler ce qui fonde le projet présent, la tentative. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition, disait Montaigne. C'est l'histoire du cheminement de l'homme dans le temps, dans ce laps qui lui est imparti par des forces qui lui sont supérieures, dans cet intervalle et de temps et d'espace où il reçoit d'être et devenir, et où il peut aussi, dans une mesure certainement relative et probablement modeste, agir. Avec ces quelques pourcentages de conscience que les cerveaux lui attribuent sur sa part globale d'activité très majoritairement dissimulée, mais pourtant bouillonnante et terriblement efficiente. Je cherche un retrait. Effacement de l'auteur, de son ego, mais tout en gardant sa voix, là, en avant, une bouche, juste une bouche, le reste dans l'ombre. Une bouche qui raconte, sache que dire, seulement dire, dire quoi. Ce n'est pas moi que je cherche à faire connaître, à faire entendre, mais une voix.
Vous venez d'entendre mon invité, le poète Fred Griot, dans un enregistrement radiophonique diffusé en avril 2017. Faire entendre une voix, avez-vous dit, mais avec effacement du sujet. Peut-être est-ce ce que Philippe Beck nomme l'impersonnage. Pouvez-vous nous dire comment se vit cette tension entre personnel et impersonnel dans une œuvre poétique comme la vôtre?
Je connais pas assez Philippe Beck pour pouvoir reprendre son terme et savoir s'il est adapté à ce que j'essaye de décrire. Mais le personnel, c'est ce que j'ai décrivé tout à l'heure, c'est-à-dire de créer les conditions d'un partage qui exprime quelque chose qui soit un peu au-delà de son corps producteur, un peu au-delà de l'auteur, au-delà du peintre, au-delà du mécanicien aussi. Hein, voilà, c'est... Le mécanicien traduit de l'énergie en déplacement pour une voiture, quoi. Et on ne pense pas forcément de façon émue à son mécanicien. Par contre, le voyage que permet son outil, on pense de façon émue. C'est la plus belle métaphore que j'ai jamais dû sortir. Celle-là, elle est pas mal. Hein. Bon, bref, j'en sors. Non, mais oui, c'est ça, c'est l'impersonnel, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a deux trucs. Quand on écrit au compas, on se dit... On dit, on sort ce qu'on a besoin de dire parce qu'on sait que la parole, ça aide souvent, que ça fluidifie les relations entre les gens, et on sait depuis la psychanalyse qu'en plus ça va jouer sur l'expression de certains pans de l'inconscient. Et ça, c'est pour le journal aussi. Je reviens à ce que dit Montaigne, c'est-à-dire qu'en fait, dans un homme, on voit toute l'humaine condition. Et c'est-à-dire qu'on est un exemplaire. Un exemplaire d'humanité, et qu'il y a des ressentis qui sont communs, et que par ça, on les véhicule, et qu'on les dit, parce qu'on est des gens de parole, et je connais beaucoup de gens qui sont déconnectés de leurs ressentis, dans le sens où ils savent pas les dire, parfois ils savent pas les sentir, du coup. Et je dis pas que le poète a une mission de ça, ceci dit, c'est lui qui dit ça quand même, quoi. Et ça d'avoir une importance qui a peut-être été perdue, alors qu'on voit chez les griots tout ça. Mais par exemple, à un moment, j'étais dans un village de Bourgogne, on m'avait demandé de collecter des paroles de gens. C'est pas moi qui parlais, c'était les autres. Et sur la table, avec la nappe cirée dans la cuisine, voilà, en quelques minutes, si vous vous mettez dans des conditions d'écoute particulières, au début, ils disent « Oh, j'ai rien à dire !» Puis finalement, paf, sort des trucs. Et puis on va parler de l'amour, de la mort, de la joie, et pas seulement du boulot, de la météo, on va bien au-delà. Et ce qui est marrant, c'est que dans le village, où j'étais à peu près comme un cheveu dans une grosse soupe au départ, en 2 jours, 3 jours, ils m'appelaient le poète. Et j'avais ma fonction. Il y avait le boulanger, le mécano, le curé, le poète, quoi. Et je me suis dit, ben en fait, il y a quelqu'un qui ne porte plus ça, c'est-à-dire celui qui véhicule la parole collective, commune, mais la parole d'un homme. Et du coup, ils m'ont très vite inscrit dans le paysage, comme si, voilà, c'était utile.
En tout cas, ça leur a certainement fait du bien. En 2012, publié par les éditions L'Atelier de l'Agneau, sortait un livre intitulé « Cargaison », coécrit par vous, et une poétesse talentueuse et singulière du nom de Claude Favre. Et si elle nous entend, nous la saluons bien amicalement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration? Comment se construit un livre de poésie à 2 auteurs ayant chacun une personnalité très affirmée?
Comment c'est arrivé dans l'ordre? Je crois que j'ai d'abord découvert son écriture, puis après c'est devenu, il y a une histoire d'amitié assez forte, une amitié qui n'est plus là pour certaines raisons, et l'écriture, mais pour moi, ça reste une des grandes écritures poétiques d'aujourd'hui. Et quand on a écrit ça, je crois qu'on s'est dit, tiens, on se fait chacun un paragraphe, bim, bom, ping, pong, quoi. Et on l'a fait à distance, on n'était pas à côté, et ça nous a amené un peu plus loin dans notre langue, chacun, je pense. Et c'est parti sur des histoires de marins, brinque-ballant, enfin tout ce mouvement-là de va-et-vient de la houle et du bateau dans la houle, avec une sonorité du coup qui est tout en clac, clink et un, pas un tempo, un balancement, là, clink, ta-clank, ta-clink, ta-clank, ta-clank, voilà.
On va peut-être lire quelques bribes pour donner le ton de ce livre. J'essaierai de lire les passages écrits par Claude Favre, et puis vous, Fred, vous lirez ce que vous avez écrit. Alors, je ne lis absolument pas comme Claude, mais je vais quand même essayer de faire passer quelque chose. Démantelez les peuples sans plus ni mes corps, tendus, équarris, fiévreux. Les avions dégueulent le ciel dans les soutes. Les cailles des pleurs, d'appels d'air sous les remorques, criez. Criez, le chant répète.
Au pas où la mer dans le s'éloigne au loin, où la mer s'assouffle la tête au poing, s'assouffle la bête au coin, juste craque au pas où peut plus. peut plus loin, comme on dit, juste crac en coin d'un cric, peut plus. Corps, corde, ça rouille, corde encore, cargaison crouille, cargo celle d'un cric au crac au loin. Ça calaracle dans le ressac, ça brise au claque du vent qui clique, cargué, ça va rouille au claque venteux. Et les squales font grand les tours, là où le renfle et enfle, et à fond de cale, où ça rouille sec, ça siffle, ça suinte, ça bête en coin, ça racle face. Ça bise méchant, ça brise en cargo de sel, et le silson dans le silence.
Alors, le sentiment que j'avais eu en lisant ce livre, c'est que c'est le livre de l'errance, et que cette errance elle-même deviendrait territoire pour qui n'a pas de lieu, pas de nationalité, pas de domicile, les sans-patries, comme dirait Sylvie d'Urbeck. Le titre « Cargaison » lui-même suggère tous les commerces, toutes les clandestinités, toutes les souffrances de la déshumanisation. Diriez-vous que ce livre est le livre du refus, de la résistance? Et selon vous, est-ce que la parole poétique, qui se fait politique, réussit à changer les consciences et les intentions de vote?
Oui, dans Cargaison, il y a un côté vaisseau fantôme. Je sais pas, moi, ce que j'ai à dire, je les mets dans les livres. Après, j'ai plus rien à en dire, quoi. Je propose, les autres disposent. Ils font leur sauce, ils voient ce qu'ils souhaitent, ils voient avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont vécu, avec leur joie et leur névrose, tout ça. Mais après, c'est plus à moi d'en parler. Mais c'est la question du politique qui nous traverse toujours. Bah, j'aurais une réponse très simple. C'est tout à l'heure, j'avais une amie au téléphone. Et elle me dit, on parlait d'intimité. On avait une discussion sur vraiment des choses qui me touchent. Elle disait, l'intime est politique. Voilà. Dire l'intime est politique, vivre l'intime, le lien à l'autre est politique. Voilà, c'est on affirme quelque chose, surtout aujourd'hui dans les rapports entre sexes, de le vivre d'une façon, d'une certaine façon, c'est une affirmation politique. Voilà. Et après, ce mouvement de vaisseau fantôme, ça a été écrit bien avant qu'on laisse crever tous ces noyés dans la Méditerranée, mais évidemment, on pourrait rapprocher. Évidemment. Et ça, c'est une chose qu'on a en commun avec Claude Favre, c'est une immense sensibilité à ceux qui sont dénudés, qui sont dépouillés de tout, quoi.
Pour continuer avec cet aspect sociologique, voire politique, avec cet engagement sur ce terrain des conditions de vie faites aux humains, conditions qui les réduit à la survie, et il faudrait plutôt dire une sous-vie, j'aimerais que nous parlions de votre book Zéro, paru au dernier Télégramme, et vous y écrivez page 106, je cite, « Maigre, plus de mots, rien, de peu, plus de mots, sans. » Et page 107, « Jusqu'où, quand possible, encore dire, encore. » Et page 108, « C'est pas. Pas finir. Arrêter. Rien. » Plus de je. Où aller encore? Oui. Fin. Ça ressemble à un livre de l'exténuation en réalité, non? Et cette exténuation écrite, elle exténue aussi son lecteur. Et c'est pour moi une illustration de ce que le philosophe allemand d'origine sud-coréenne Byung-Chul Han nomme la société de la fatigue, ou encore la civilisation du burn-out. Fred Griot, êtes-vous sensible à cette nouvelle donnée dans le déroulement des vies de très nombreux de nos contemporains? Est-ce que vous leur donnez la parole, en quelque sorte?
Ce qu'on appelle le burn-out, j'en ai été victime. Après, chacun dit ce qu'il veut, encore une fois. Je propose, les autres disposent. Mais pour moi, c'est pas du tout ça que je dis. Au contraire, c'est une grande sérénité. C'est cette fin que vous avez lue, « Plus de jeu, où aller encore ?» Oui. Presque tous mes spectacles, je les finis là-dessus, et ça finit sur un oui. Et plus de jeu, c'est pas... Évidemment, pour ça, jeu est un autre, mais c'est pas je n'existe plus, je suis dissous, c'est au contraire, c'est justement, je suis dans une ouverture telle que je suis partie prenante, je suis diffus dans le corps du monde, et c'est pas une schizophrénie, il n'y a rien, au contraire, c'est une grande sérénité de prendre conscience qu'on est dedans tout ça, qu'on est dedans ce dehors et ce dehors est dedans nous, quoi. Pour moi, c'est quand même quelque part le fantasme d'une sérénité, quoi. C'est la grotte, c'est l'abri, c'est pas c'est le silence en soi, quoi. Et oui, Book Zero est prêt, et une grande partie de mes livres, je crois, finissent vers ça. C'est pas l'exténuation, c'est tout. Au contraire, c'est une énergie très, très fraîche, très, très vive, très renouvelée, très, très nettoyée de beaucoup de scories, quoi.
Alors, on va écouter un extrait de Book Zero. Il s'agit d'un enregistrement fait lors d'une lecture publique.
Et on chiale, parfois. On sait le moment où les boutons se rouvriront et nous n'oublierons pas d'être fleurs rouges, jaunes. Juste aller s'asseoir dehors, regarder le soir venir. Sentir la terre tourner, tourner avec. Le silence dehors suffit, suffit. Écouter dehors et du silence dedans suffit. Après, très haut moment, l'énergie descendue en bas, à plat. Mais là aussi que ça revient à l'abri, à l'ombre, au creux. Là aussi que ça revient au centre, ou plus possible de dire autre chose ou autrement, arriver à ce reste-là, ce reste à ne plus réduire.
Vous venez d'entendre la voix de Fred Griot, poète, dire un extrait de son livre intitulé Book Zero, un enregistrement fait lors d'une lecture publique, et vous écoutez Les Mots d'Azur ou la poésie en direct. Ce soir, depuis la Maison de Poésie de Normandie, où Fred Griot se trouve pour travailler à la création d'une pièce sonore, ou de plusieurs. La Maison de Poésie de Normandie, en effet, accueille 7 poètes du collectif Écrit Studio pour une mini-résidence de création. Fred Griot, c'est votre premier contact avec ce collectif, bien que par ailleurs vous ayez déjà rencontré plusieurs des autres auteurs en résidence en ce moment, soit en chair et en os, soit à travers leurs livres. Que pouvez-vous d'ores et déjà dire de cette expérience au sein d'Écrit Studio ?
Oui, ceux qui sont là, je les ai entendus. Je les ai lus par leurs livres et je les ai entendus par leurs pièces sonores. Mais ce que je veux dire, moi déjà, c'est un grand plaisir parce que je retourne dans le son. Il y a à peu près 15 ans, j'écrivais sur des cassettes, j'allais dire. Oui. J'écrivais avec la voix et je m'enregistrais. Puis c'est un peu passé, puis il y a 15 ans, j'ai repris le son dans la gueule, quoi. Et tout d'un coup, c'était tout un pan, j'étais dans le langage silencieux, dans l'écrit, même s'il est bourré à craquer de son. Hein. Et tout d'un coup, j'ai pris cet aspect sonore dans la gueule et j'ai bidouillé, comme on fait ici, collecter du son, le monter, le composer, que ce soit du son tel quel, je sais pas, n'importe quoi, un son de source, ou que ce soit du son, par exemple, verbal, alors soit verbal comme on discute là, mais après ça peut être du son qu'on se met à travailler. Mais après j'ai travaillé énormément avec des musiciens, et c'est les musiciens qui prenaient en charge ça. Moi je prenais la voix, point. Eux composaient, jouaient, tout ça. Et là c'est moi de nouveau qui m'essaie à jouer au compositeur. Et c'est un super plaisir de tomber là-dedans. Donc ça, pour la proposition de me ramener à ça, c'est génial. Et après, le collectif, bah, c'est l'immense passion, pour moi, des rencontres. Et qui marche pas. Ça, c'est encore après, mais c'est de prendre toujours ce mini-risque de la rencontre, et en fait, qui est toujours nourrissant, quoi. Et pas seulement d'un point de vue artistique, évidemment, quoi.
Vous avez pas mal voyagé, Fred Griot. Et vous dites sur votre site que le voyage en Islande a mis fin à votre adolescence. De quel élan est parti ce goût du voyage ? En avez-vous tiré des récits de voyage, des livres ?
Moi, c'est surtout ce que j'appelle le goût du grand dehors. C'est un grand mot, mais Parce que je viens des Alpes, je suis né à Lyon, j'ai passé du temps à Lyon, mais je me considère avant tout comme alpin. Ça, c'est ma terre de cœur, j'allais dire. Même si j'ai demandé qu'on me disperse dans la mer, mais c'est une autre histoire et c'est un autre poème. J'ai perdu la question de nouveau.
Pourquoi ce voyage en Islande a mis fin à votre adolescence ? De quel élan est parti le désir de partir ?
Ça, voilà, c'est une des joies du langage. Il se perd, il se retrouve. Quand vous suivez une discussion, c'est génial. Je sais pas, vous partez des endives braisées et vous arrivez tout d'un coup à un philosophe allemand. Vous savez pas comment le chemin s'est fait en 10 minutes avec les interlocuteurs. Bref. Et là, je me suis de nouveau parti. Perdu. Ou non, l'Islande, ouais. Oui, non, c'est le goût du grand dehors. Donc, je suis allé en Islande parce que j'ai les landes, les zones nues, les zones ventées, c'est des lieux qui me parlent très très profondément. D'ailleurs, il y en a plein mes bouquins de ce cadre-là. Et ça a fini mon adolescence parce que j'ai pris l'Islande dans la gueule. J'ai pris la tempête islandaise plusieurs fois dans la gueule. Et ça calme assez vite les ardeurs romantiques, parce que je connaissais, hein, je suis quelqu'un qui vit dans le monde du bivouac, des choses comme ça, mais là, voilà, je me suis tout fait arracher la première nuit, et j'étais à poil dehors. Et ça a fini mon adolescence aussi, parce que il y a un moment, j'ai cru que j'avais plus rien à dire, que j'avais plus à écrire, j'avais fait mon jeu est un autre, et surtout, j'ai plongé dans la danse à ce moment-là, et pendant les 3 ans où j'ai dansé, où je dansais beaucoup par semaine, enfin, par jour, par semaine, l'énergie, elle est là, et j'écrivais plus. Et j'ai cru que j'avais fini d'écrire, et pour moi, ça a été, voilà, j'avais fini mon adolescence rimbaldienne, et mon Éthiopie était dans la danse. J'avais très envie de danser. Et une fois, une copine est venue me chercher, elle savait pas que j'avais envie de danser, ils avaient besoin d'un grimpeur pour danser sur le mur du lointain d'un théâtre. Ça a commencé comme ça, puis ça a été une drogue dure, quoi. Mais vous bossez la même chose, hein. Vous bossez c'est de la poétique qu'on travaille. Moi, je travaille depuis quelques années avec des grands danseurs, grimpeurs, étoiles, on pourrait dire. Et on travaille de la poétique, c'est tout, sauf qu'elle est la verticale, en hauteur, qu'elle est dansée. Mais c'est le même job, on fait circuler, c'est des agents de circulation. On n'a pas de casquette, et on n'a pas de chef, surtout.
Est-ce qu'il y a des ronds-points ?
Non, on les ouvre, les ronds.
Eh bien, c'est la transition toute trouvée pour parler de votre réseau de professionnels et de l'aventure, escalade, canyoning, qui a donc un rapport avec la danse. Est-ce que ça a un rapport avec votre œuvre d'écrivain ? Est-ce que c'est une façon d'équilibrer entre une activité immobile et une activité physique ? Est-ce que c'est une façon de se réinventer ?
C'est deux passions de gamin, enfin c'est plus que des passions de gamin, c'est deux racines de gamin, c'est deux pieds de gamin. Dans ce que j'appelle le dehors, il y a voilà, les racines alpines, le fait d'avoir marché tôt, d'avoir été initié au goût de l'effort, au fait de vivre dehors, de savoir goûter une baignade dans un torrent froid, le bivouac le soir, de savoir se protéger du froid, du vent. Et puis ça, le dire, ou savoir le dire, tant bien que mal. Dans la marche, évidemment, on peut y entendre mes ascendances paysannes, peut-être, ou forestiers. Dans l'aspect plus poétique, peut-être mes ascendances de bibliothèque dans une autre maison d'enfance où j'ai vécu. En fait, j'ai créé une économie avec mes deux passions, parce que je suis bon qu'à ça, Dibs et Beckett, hein, quand je fais autre chose, si ça ne me passionne pas, ça, je fane, quoi. Et oui, c'est un équilibre, parce qu'un jour, je vais faire de la tronçonneuse avec des copains pendant une corde, et le lendemain, on fait une interview autour de l'incidence du langage sur nous-mêmes. Et ça, c'est un vrai équilibre, je pense, plutôt que de rester toujours dans un même milieu.
On va passer maintenant à un autre livre intitulé « Enfin, tu regardes l'herbe ». Un ouvrage paru chez Publi.net et il est annoncé qu'il s'agit de 200 textes chants et un CD accompagne le livre. Et en introduction, on lit ceci que je vais vous laisser lire, Fred Griot.
Oui, ça c'est une kipite, c'est pas un poème, mais j'y dis que À un moment, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de mes différentes possibilités d'écriture. Alors je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire un livre sans volontarisme, juste un livre reçu, où je laisse simplement les choses venir et traverser. Un livre d'écoute. Pour dire quoi de plus ? Pour dire simplement, clairement, librement, autant que faire se peut, ce que l'un de nous voit, ressent, c'est tout. Ça a démarré comme ça. Je me rendrai compte plus tard que c'était encore un risque pris, et ce furent ces sortes de chants-là. Cette tentative d'aimer mieux, et qu'il n'y avait peut-être que cela qui vaille.
Alors vous l'avez entendu comme moi, chers auditeurs, aimer mieux, ou encore savoir aimer. Est-ce que ce ne serait pas ça, le but de la vie, et non, comme certains philosophes l'ont prétendu, apprendre à mourir?
Ah, avec le grand âge, peut-être que je me rapproche de la grande sagesse. Je parlais tout à l'heure de ces grands mouvements, écrire comme on marche, qu'après je disais que j'écris comme pour écouter, et après je me suis mis à dire que j'écris pour aimer mieux. C'est toujours ça, hein, cette histoire au grand corps du monde. Hein. J'étais très très proche de Philippe Ramy, qui est mort de maladie accidentellement, au moment où j'écrivais le disque. Et enfin, Feinturière de l'herbe, c'est le poème éponyme qui est dedans, qui lui est dédié ou qui lui parle. Feinturière de l'herbe, hein, on mange les pissenlits par la racine, quoi. Et j'ai une histoire avec ça, avec l'herbe des Landes, l'alpage. Mon père a été déposé dans un alpage, etc. Avec l'herbe. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'aide profondément de savoir qu'on redevient des herbes, des plantes, du vivant. Donc, enfin, tu regardes l'herbe, c'est ça. Et Philippe, il se trouve que Philippe, qui était en fauteuil, qui était handicapé, avait une capacité d'amour, une capacité d'attention aux autres qui était phénoménale, qui était sans doute due au fait qu'il avait peur de ne pas être aimable, parce qu'il avait un corps déformé. Et il en a donné en retour, avec son intelligence, en relation, il en a donné beaucoup de l'amour. Et lui, ce qu'il m'a laissé, c'est ça, c'est essayer d'aimer mieux, un tout petit peu mieux.
Dites-en un peu plus de ce Philippe Ramy, parce que les auditeurs ne le connaissent pas forcément.
Philippe Ramy, c'est un petit bonhomme qui avait toujours un bob sur la tête, parce qu'il avait la maladie des os de verre. Alors, on commence souvent à le présenter avec ça, mais bon, c'est le premier truc qu'on voit. Donc, il avait le crâne déformé, les os, les pieds, tout ça, donc il était en fauteuil, avec son bob sur la tête, des yeux qui captent les choses. J'ai rencontré par le comité de rédaction de Remus.net, qui est un site, une revue, une grande revue littéraire, enfin une grosse revue littéraire, fondée par François Bon sur Internet. Et on est très vite devenus amis et on a échangé du whisky sous morphine parce qu'il était en permanence sous morphine. Et là, on a eu des idées de projets, par exemple de tourner un film. Et lui, il a d'abord écrit de la poésie, beaucoup sur la douleur, au chêne. Et puis petit à petit, il est allé vers de la prose et il a fait des grands livres. Certains qui ont été portés par Denis Lavant, certains qui ont été édités de façon posthume, parce qu'il a laissé des sacrées œuvres. Mais à mon avis, sa plus grande œuvre, c'est sa correspondance. Il a une correspondance tentaculaire avec des tas de gens. Et moi, j'ai des échanges de mails avec lui qui sont dingues. Alors, je prends toujours cet exemple. Il était en train d'écrire « Pardon pour l'Amérique » au moment de la montée de Trump. Il habitait en Floride parce que le climat lui convenait pour sa maladie. Il me dit « Ouais, je suis sale, l'Amérique demande beaucoup, je suis à 50 000 mots, j'écris le langage. » Voilà. Ça, c'est des mots de lui, quoi. Lisez-le.
Dans ce « Enfin, tu regardes l'herbe », il y a un aspect monologue, un flux de conscience, comme si vous vous parliez avant tout à vous-même. Quand vous écrivez, la question d'un éventuel lecteur ou auditeur est-elle présente dans votre conscience?
C'est un truc que j'ai pas mal questionné à un moment, l'histoire de l'adresse. Est-ce qu'on écrit pour? Je sais pas. Quand on édite, c'est qu'on pense avoir quelque chose d'intéressant à dire. Quand on écrit sans éditer, c'est encore autre chose. Je sais pas. C'est pas une question résolue pour moi. Mais je pense que, en tout cas, quand on édite, et même quand on écrit, je pense qu'on écrit quand même en imaginant un partage possible, quoi. Nous, les humains, on a besoin de se tenir chaud entre nous, hein, et partager la langue autour du feu. C'est ça. Mais sinon, je ne sais pas exactement si on écrit pour quelqu'un. On écrit parce qu'on sent, ça c'est certain. Si, on écrit toujours pour quelqu'un, mais parfois c'est à soi-même. Il y a parfois l'exercice du journal. Alors moi, quand je l'édite, le journal, j'édite les parties qui peuvent être partageables avec l'autre, pas juste mes petites histoires perso à moi. Mais il y a l'adresse intérieure, elle existe. Et dans le journal, typiquement, pour moi, c'est là le lieu où on déroule une pensée lente, qui est autre chose que la fulgurance du poème. Et là, oui, on s'entend, en tout cas. Je ne sais pas si on se parle à soi-même, mais on entend cette pensée, on la couche sur le papier, quoi.
Il y a une constante dans cette émission qui est que notre invité partage une chanson ou une musique, quelque chose qui l'accompagne, quelque chose qui l'a frappé, etc. Quel serait votre choix et pourquoi ?
Ce qui m'est venu tout de suite, c'est Tinder Sticks, parce que ça a été un coup de foudre qui me correspond vraiment beaucoup, un groupe anglais. Ou celui que j'écoute beaucoup, c'est Asaf Avidan, un Israélien. Il se trouve que c'est Philippe Ramy qui me l'a fait découvrir la première fois. Ouais, pour moi, c'est du très haut niveau musical. C'est d'une humanité, si je dis déchirante, hein. C'est pas de la tristesse dont je parle. C'est d'une humanité qui vous touche, quoi, qui vous prend. Une amie me disait après le concert, il me dit, voilà, c'est ceux qui ont la grâce. Et ceux qui ont la grâce ont la capacité de vous faire partager nos sensations.
Eh bien, pour pouvoir honorer la mémoire de Philippe Ramy, écoutons Asaf Avidan, une chanson intitulée « Reckoning ».
Is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why you had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but a rich man can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think you're true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane. That's stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told.
Vous venez d'entendre Asaf Avidan, artiste israélien, interpréter Reckoning. Et c'était le choix musical de mon invité Fred Griot, à qui, hélas, il faut maintenant dire au revoir. Alors, merci infiniment pour cet entretien riche et sensible, Fred Griot. C'était un plaisir de discuter avec vous. C'était Les Mots d'Azur, ou la poésie en direct. Je vous retrouverai en en septembre pour un nouvel épisode des Mots d'Azur. Et d'ici là, chers auditeurs, bonnes vacances, portez-vous bien, au revoir.